Bonjour à toutes et tous, chers frères et sœurs. Merci Alexandre, merci Christine, Audrey, Théa, Jean-O, de nous avoir conduits dans ce culte, dans la louange du Seigneur. Et j'aimerais commencer par un petit sondage. Qui parmi vous regarde les films ou les séries en version originale sous-titrée? Levez la main. Ouais. Alors vous regardez en quelle langue? La langue originale? Espagnol peut-être? Non, même pas. Anglais, ok. Donc tous ceux qui ont répondu, vous parlez bien l'anglais. Donc je peux vous poser des questions sur votre niveau d'anglais, ça va? C'est ça? Alors, comment est-ce qu'en anglais on dit dernier? Là, c'est facile, facile. Et comment est-ce qu'en anglais on dit moindre? Un peu plus dur. Comment? List. Last, list. C'est deux mots qui sonnent assez proches. Et les Anglais en ont fait une expression, un petit jeu de mots que vous connaissez peut-être. Last but not least. C'est-à-dire c'est le dernier, mais ce n'est pas le moins important. Ce n'est pas le moindre. Quand on fait par exemple une pièce de théâtre, on va présenter les acteurs, on va présenter les premiers rôles, les deuxièmes rôles. Et puis on peut terminer en disant last but not least, le metteur en scène par exemple. Ce n'est pas parce que c'est à la fin que ça a moins d'importance. Et je pense qu'on a parlé de la parabole du sage et du fou, de la construction des maisons. Jésus aurait pu l'introduire en disant « last but not least » parce que c'est la toute dernière du dernier enseignement du sermon sur la montagne. Et puis après, la foule se disperse. Et ce matin aussi, on va lire un texte qui se trouve tout à la fin de la lettre de Paul, que Paul a écrite aux chrétiens d'Éphèse. Mais là aussi, « last but not least ». Ce n'est pas parce que c'est la fin de la lettre de Paul que ce n'est pas important, loin de là. On va lire les versets 18 à 23 et puis on va surtout réfléchir ensemble et méditer sur les versets 18, 19 et 20 où Paul nous parle, dans ses toutes dernières exhortations, de la prière. Un des fondements dont Alex nous a parlé, un des fondements sur lesquels on peut bâtir notre vie. Et on va voir à travers ces trois versets comment Paul nous enseigne et nous encourage sur la place de la prière dans nos vies, sur l'attitude à avoir dans la prière et sur le contenu de la prière. On va lire ensemble dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, les versets 18 à 24, dans la version Semeur. Éphésiens, chapitre 6. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. Pour que vous connaissiez ma situation et que vous sachiez ce que je fais, Tychique, notre cher frère qui est un serviteur fidèle dans la communion avec le Christ, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès chez vous, pour qu'il vous donne de mes nouvelles et vous encourage ainsi. Que Dieu, le Père, et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères la paix et l'amour avec la foi. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Fin de la lettre de Paul aux Éphésiens. Ces quelques versets où Paul parle de la prière, des requêtes, des supplications, selon les versions, se situent juste avant les salutations, où il dit, voilà, il y a Tychique qui va venir chez vous, il vous encourage et soyez bénis. Et juste avant, Paul parle de la prière. Dans les versets qui précèdent, on a le passage que vous connaissez peut-être où Paul parle de l'armure du chrétien, le casque du salut, le bouclier, l'épée de l'esprit. Et tout de suite ensuite, il parle de la prière, et ensuite, il dit au revoir à ses correspondants en les bénissant. Et si on recule un petit peu, si on essaye de voir comment cette lettre est construite, on voit qu'au premier chapitre, au tout début de la lettre, Paul commence par des salutations, parce que c'est quelqu'un de poli, et donc quand il dit, il envoie une lettre, il dit « salutations à vous », et tout de suite après, chapitre 1, verset 3, Paul commence par prier. Une grande prière, une magnifique prière sur l'ensemble du chapitre. Des salutations et une prière, et à la fin, des salutations et juste avant une prière. La prière encadre, englobe l'ensemble de la lettre que Paul écrit. C'est comme si au début, il y avait une source d'eau pure qui jaillissait, et que cette source devenait souterraine, et qu'elle ressortait à la fin de la lettre, mais dans l'intervalle, elle a irrigué, elle a arrosé, elle a irrigué de manière visible ou invisible tout ce qui est sur son chemin. Tout ce que Paul va dire dans cette lettre, c'est encadré par la prière. Et cette présence constante de la prière se retrouve dans la première exhortation de Paul. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes. En toutes circonstances. Quand ça va bien et quand ça va mal. Quand je suis à l'église et quand je suis au travail. Quand je suis au top de ma forme, en train de faire une séance de fitness. Et aussi quand je suis cloué au lit par la maladie. Quand je suis en vacances, détendu. Quand je suis surchargé de travail et stressé. Quand je suis seul, quand je suis avec d'autres, quand je célèbre la naissance d'un enfant et quand je pleure la mort d'un proche. Toutes ces circonstances sont des beaux moments pour prier. Il n'y a pas de mauvais moment pour prier. Il n'y a jamais de mauvais moment pour prier. Et comme dans Éphésiens, notre prière peut prendre des formes différentes. Elle peut être éclatante, magnifique, comme au chapitre 1. Et à d'autres moments, notre prière peut être discrète, un peu souterraine. Parfois, on se sent porté, on se sent béni. Et puis, comme un feu d'artifice, notre prière éclate. Moi, ça m'arrive plutôt quand je me promène dans la forêt, par exemple. Quand je suis dans la nature, là, spontanément, la prière, elle vient. À d'autres moments, notre prière est plus difficile. Elle peut nous demander des efforts dont nous sommes incapables. Paul nous invite à cultiver notre vie de prière en toutes circonstances. C'est un gros défi. Et pour moi en particulier, je pars faire un deuxième sondage pour évaluer à chacun notre vie de prière, mais pour moi c'est un des domaines de ma vie de foi où j'ai vécu et je vis encore des découragements, des échecs. Et le fait de lire ce verset-là, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières. Je suis d'accord intellectuellement, mais ça me rappelle à quel point je suis encore loin de vivre cela. Et on peut se sentir découragé avec une telle exhortation, en disant « mais moi, je n'arrive pas à avoir une vie de prière presque constante comme cela ». Mais Paul, après avoir parlé de la place de la prière, poursuit en nous parlant de l'attitude pour prier. Et là, il y a deux affirmations extraordinaires qui sont un encouragement et un réconfort pour nous. La première, c'est que Dieu m'aide à prier. Dieu nous aide à prier. La deuxième, c'est qu'être faible, ce n'est pas un problème ou un obstacle, au contraire. Relisons ensemble le verset 18. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Priez avec vigilance et constance, d'une part, priez sous la conduite de l'Esprit, d'autre part. L'Esprit Saint, Dieu lui-même, me conduit dans la prière. Et en même temps, je dois faire preuve de vigilance, de constance. On retrouve ici là quelque chose qui est présent dans toute la lettre de Paul aux Éphésiens. Dieu agit et l'homme est appelé à agir aussi. Le croyant, l'enfant de Dieu est appelé à agir. on met ensemble, Paul met ensemble dans la lettre aux Éphésiens, l'appel de Dieu et la manière dont on vit. Et ma vie de prière ne repose pas que sur mes épaules. Dieu vient lui-même m'aider par son esprit. Il est présent, il m'aide. Et dans la lettre qu'il écrit aux chrétiens de Rome, Paul développe cette idée lorsqu'il dit « Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. » Oui, c'est extraordinaire et rassurant en même temps de savoir que Dieu lui-même est là pour nous guider par son Esprit. Qu'il inspire des prières qui peuvent être très courtes. C'est Paul, toujours le même Paul, qui dit « Par cet esprit, nous crions « Abba ». Un mot pour dire « Père ». Reconnaître Dieu comme notre Père. Voilà un exemple de ce que l'esprit peut nous conduire à prier. Même dans les prières les plus courtes, même dans des prières inexprimées, l'esprit de Dieu est présent. Pour autant, ça ne veut pas dire que puisqu'on se fait guider par Dieu, nous n'avons rien à faire. Paul encourage à prier avec vigilance et constance, en étant conscient de ce qu'on dit, de ce qu'on entend, en étant concentré, attentif, présent à notre prière. Ça demande des efforts, mais faire ces efforts en sachant que Dieu nous aide, ça change le regard qu'on porte sur la prière. C'est comme si on fait une randonnée en montagne, avec un lourd sac, avec une carte, et qu'un ami vient porter le sac à notre place, nous donner les indications, mais il faut quand même continuer à marcher pour avancer. Oui, Dieu nous aide dans nos prières. Et la deuxième chose extraordinaire qu'affirme Paul ici, c'est que la faiblesse n'est pas un obstacle à la prière. Regardons plus en détail ce que demande Paul. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. Paul nous dit ici qu'il ne pense pas être à la hauteur de la tâche à laquelle Dieu l'a appelé. Annoncer la bonne nouvelle avec assurance. Et il demande aux Éphésiens de prier spécifiquement pour lui. C'est un aveu de faiblesse qui peut sembler surprenant, mais qui est essentiel. Et notre faiblesse, est sans doute une clé dans la prière. Ça fait maintenant 10 minutes qu'on parle de prière, et j'en ai pas donné de définition. Je suis parti du principe qu'on est tous d'accord sur ce que c'est que la prière. On en a parlé aussi au début. Si on vous demandait de définir la prière en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez ? Alex nous a donné une définition, et c'est celle que moi j'adopte aussi. Qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce que c'est la prière ? Communiquer avec Dieu, oui, parler avec Dieu. Et c'est effectivement, pour moi, prier, c'est parler avec Dieu. J'ai récemment lu un texte sur la prière par un théologien norvégien du début du XXe siècle, écrit il y a une centaine d'années, Ole Hallesby. De son côté, il donne la définition suivante. Prier, c'est permettre à Jésus d'entrer dans notre cœur. Et un peu plus loin, prier, c'est simplement mettre Jésus au courant de nos besoins et lui permettre d'user de sa puissance pour soulager notre souffrance. Ça va un petit peu plus loin qu'effectivement la définition que moi j'adopte aussi, qui est de dire que prier, c'est parler avec Dieu. Oui, c'est parler avec Dieu, mais dans une certaine dynamique, dans un certain sens. C'est ouvrir notre cœur et laisser agir Dieu dans nos vies. Et ce théologien poursuit en disant qu'il y a pour lui 2 conditions pour pouvoir prier, la foi et la faiblesse. Et un passage en particulier qui m'a interpellé, je vais vous le lire. Ne soyez pas trop préoccupés de votre faiblesse. Ne la laissez pas devenir une entrave à votre vie de prière. Elle en est à la fois le secret et le ressort. Remerciez plutôt Dieu qu'il vous en a rendu conscient. C'est là l'un des plus grands dons qu'il fait à l'homme, car en sentant notre totale incapacité, alors nous ouvrons notre cœur à Jésus et nous acceptons son secours miséricordieux. C'est une approche intéressante, n'est-ce pas? Pour ce théologien, alors c'est pas inspiré, c'est pas la parole de Dieu, mais je trouve que c'est une réflexion intéressante. Intégrer notre faiblesse à notre vie de prière, c'est le signe d'une certaine maturité dans la vie chrétienne. Et on a l'impression que c'est ce que dit Paul ici. Paul, quand il demande à la prière des Éphésiens, il ne se plaint pas, il n'y a pas d'affect, mais il reconnaît son incapacité, il reconnaît sa faiblesse. Et il s'ouvre à Dieu, il s'ouvre à ce que Dieu va pouvoir faire dans sa vie à travers l'intercession des Éphésiens, à travers la prière des Éphésiens. Donc l'attitude que l'on peut avoir dans la prière, de savoir que Dieu nous aide, de se reconnaître comme faible pour plus facilement ouvrir notre cœur, pour moi ce sont des réels encouragements à avancer. Lorsque je constate que ma vie de prière n'a pas forcément le dynamisme ou la saveur ou la fréquence, que sais-je, à laquelle j'aspire. Paul nous parle de la place de la prière, Paul nous parle de l'attitude à avoir pour prier. Et enfin, terminons avec ce que Paul nous enseigne sur le contenu de la prière. Toujours les mêmes versets, vous allez les connaître par cœur, hein, à la fin de la prédication. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, en particulier pour moi. Paul encourage à prier pour les autres croyants, les frères et sœurs, et pour lui en particulier. Une prière ciblée sur les autres, pas centrée sur soi. Au premier chapitre, cette grande prière éclatante, elle était une prière de louange à Dieu. Là, dans le chapitre 6, Paul encourage à prier pour les frères et sœurs. Une prière qui loue Dieu, qui maintient ma relation avec Dieu, et aussi une prière par laquelle je maintiens les liens dans la communauté, entre frères et sœurs, parce qu'on prie les uns pour les autres. Alors, bien entendu, ça n'empêche pas de prier pour soi. Et Paul nous dit, à certaines reprises, dans ses lettres, hein, qu'il a prié 3 fois pour qu'une épreuve lui soit retirée. Donc, il est tout à fait légitime de prier pour soi, de prier pour des besoins que l'on a, de les présenter à Dieu. Mais la dynamique qu'on voit ici, c'est qu'on fait appel aux autres pour prier pour nous, pour nos besoins. Priez pour moi. C'est peut-être une phrase qu'on ne se dit pas assez souvent entre nous. Prie pour moi. Prie pour ceci. Prie pour ce besoin, pour cette situation. Quand on se tourne vers un frère ou une sœur en disant « Prie pour moi », on reconnaît notre faiblesse devant l'autre. On rend la prière personnelle, ciblée. On renforce les liens au sein de la communauté. Quelques mots pour conclure notre méditation. Nous avons parlé de là où Paul nous parle de la place de la prière, de l'attitude, de la façon que dont Dieu nous aide, dont notre faiblesse ne doit pas être un obstacle, et dont nous sommes encouragés à prier les uns pour les autres. La lettre que Paul écrit aux Éphésiens, c'est une lettre à une église qu'il connaît bien et qu'il souhaite encourager à grandir, à devenir une église adulte, mature, pour que les membres de cette église d'Éphèse soient des adultes à l'image du Christ. Et il termine ses encouragements par la prière. Mais pour autant, la prière, ce n'est pas une clé magique qui ouvre toutes les bénédictions de Dieu. Je pense qu'il faut aussi le rappeler et en être conscient. La prière, ce n'est pas non plus une compétence qu'on pourrait acquérir à partir comme un code de la route, par exemple, en disant « Ouais, moi je sais prier, je ne sais pas prier ». La prière, ce n'est pas non plus une arme. La liste des armes spirituelles, hein, le casque du salut, le bouclier de la foi, elle s'arrête au verset 17. Et contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, la prière n'est pas puissante. Ce n'est pas la prière qui est puissante. C'est le Dieu auquel on s'adresse, le Dieu que l'on prie, qui est puissant. Il n'y a pas de magie dans la prière. C'est Dieu qui agit, c'est le Dieu auquel on s'adresse qui agit et qui est puissant. Ce n'est pas une compétence, ce n'est pas une clé magique, ce n'est pas une arme. Non, la prière, c'est une disposition de cœur. Être ouvert à Dieu, être ouvert au Saint-Esprit, être ouvert aux autres en toutes circonstances. C'est une activité qui demande ma participation active, mais où j'ai la certitude de bénéficier de l'aide de Dieu par son Esprit. Par la prière, je reconnais ma faiblesse devant Dieu, devant les autres, lorsque je leur demande d'intercéder pour moi. Last but not least, je vais terminer par prier. Et j'aimerais proposer à ceux qui le souhaitent peut-être une application pratique à la fin du culte, lorsque vous vous saluerez, lorsque vous demanderez des nouvelles. N'hésitez pas à dire à la personne qui est avec vous, prie pour moi. Prie pour moi pour cela, pour cette situation, pour tel collègue, pour telle personne, pour tel défi que je vis dans ma vie. Prions. Père, toi qui as créé le monde par ta parole, tu t'adresses à nous. Tu nous appelles et tu attends que nous te répondions par notre vie transformée et aussi par la prière. Nous te remercions parce que tu te rends accessible. Toi, le Dieu créateur, infini, sauveur, tu attends que nous venions avec confiance te parler, t'ouvrir nos cœurs dans la prière. Merci parce que tu n'attends pas de nous que nos prières soient belles et parfaites selon les standards humains, mais tu nous guides par ton esprit pour que dans notre faiblesse, nous soyons ouverts à ton action dans nos vies et ouverts sur nos frères et sœurs qui prient pour nous. Aide-nous, Père, dans les jours à venir, à vivre une vie de prière selon ton cœur et en nous encourageant les uns les autres sur ce chemin. Amen.